êtes bien sur Station Simone. Bienvenue dans un nouvel épisode de Simone Nippon. Pour ce 7e épisode de Simone Nippon, partons découvrir la maison japonaise. Et si on commençait par parler du chauffage des maisons japonaises ?
C'est un chauffage qui était à la japonaise, c'est-à-dire très inefficace.
Et il y a une raison à cela ?
La maison japonaise traditionnelle est influencée par des courants venus du sud, ce qui fait qu'elle est très mal adaptée à l'hiver. Dans la tradition japonaise, l'idée c'est que c'est l'été qui est difficile à supporter. Ma thèse portait sur la colonisation de l'île du Nord. La région centrale de l'île, il fait aussi froid qu'à Moscou. Le grand problème qui se sont posés à ce moment-là, c'était comment adapter l'habitation. Au début, était très mal adaptée, la maison japonaise.
Augustin Berck nous livre ici ses impressions du Japon des années 70. Cassandre, lycéenne qui revient d'une année passée dans le nord du Japon, où il faisait moins 15 et l'hiver, évoque encore et toujours des problèmes de chauffage. Mais il semble que ces problèmes ne soient plus seulement liés à la construction traditionnelle des maisons.
Au Japon, ils font énormément d'économies d'énergie parce que c'est très très cher. La nuit, le chauffage va se couper, donc ils dorment en hiver avec beaucoup de couettes ou un gros pyjama parce que sinon on peut avoir très froid.
La maison du vieux voisin paraît si fragile. Je pense toujours qu'elle va s'envoler au prochain cyclone. Comment fait-il pour qu'elle reste en place ? Il court partout, il utilise son corps comme un poids contre le toit, contre le sol et les murs.
Au-delà de l'apparente fragilité de la maison traditionnelle telle qu'elle apparaît dans le texte lu par Mina, il semble que la maison soit tout entière incarnée par la famille et les liens familiaux qui l'habitent. Comme en témoigne cet extrait du travail de Augustin Berck, Le sens de l'espace au Japon, lecture par Jean.
La maison est un espace collectif relativement indifférencié. Nombre de comportements le suggèrent. Parents et enfants dormiront volontiers côte à côte dans les futons, matelas et édredons, étendus le soir sur les tatamis, quand bien même il y aurait assez de pièces pour dormir séparément dans des lits individuels. Des personnes de deux ou trois générations différentes, la grand-mère avec le petit-fils par exemple, prendront leur bain ensemble. Commode pour se faire savonner le dos. Le bain à deux est courant, pas à plusieurs car la place manquerait, sinon dans les bains publics et les sources thermales. La maison et ceux qui l'habitent.
Augustin Berck est philosophe, géographe et aussi mésologue. Qu'est-ce qu'un mésologue ? C'est quelqu'un qui s'intéresse aux relations entre les êtres vivants et leur milieu. Alors Augustin Berck a vécu très longtemps au Japon et il parle à plusieurs reprises de la maison traditionnelle japonaise. Il explique que comme cette maison est sur des pilotis bas, entrer dans la maison se dit monter dans la maison, anara. Et les différents espaces qui constituent l'habitation sont très liés à la tradition bouddhiste. Ils sont tous en transition douce les uns avec les autres. Le genkan, qui est le seuil de la maison, n'est ni tout à fait dehors, ni tout à fait dedans. Le facteur, par exemple, ne monte pas la marche qui entre dans la maison. Seule la famille la franchit pour entrer sur l'espace qui est tatamisé. Le engawa, c'est ce petit rebord en bois qui borde la maison et qui n'est pas tatamisé non plus. Là, on peut s'asseoir pour bavarder avec les voisins et les gens de l'extérieur. Ne franchit pas qui veut le genkan. Nous allons rejoindre au Japon notre envoyée spéciale Nathalie et partir à sa rencontre vers une maison japonaise.
Je suis maintenant à Inuyama, à côté d'une grande ville, Nagoya. C'est une petite ville assez traditionnelle, donc je me balade dans les vieilles rues, comme d'habitude, j'adore les vieilles rues. Les maisons toutes en bois, c'est super beau. Donc j'avais une adresse pour rencontrer un maître en Ikebana, parce que je pratique un peu l'Ikebana, très modestement bien sûr. Avec l'école Sogetsu, j'ai pris pas mal de cours, une année de cours à Paris. Et là, donc, j'avais rendez-vous avec un maître d'Ikebana. Donc, j'arrive devant une petite maison, comme je disais, en bois. Les fenêtres sont couvertes de paillasses, parce que, comme disent les Japonais, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, ils couvrent leur maison, ils ont des jardins tout autour de la maison, tout est calfeutré. Donc, deux portes coulissantes s'ouvrent. Et là, une femme d'un certain âge, vêtue de kimono très sobre, de couleur bleu foncé, avec un chignon à la nuque et les cheveux grisonnants, m'accueille. Mais elle avait un très beau sourire, un très beau visage malgré tout. Donc j'ai pris soin de bien enlever mes chaussures face à la porte, sur la terre battue, et puis j'ai gravi la première marche qui m'a amené sur le fameux tatami, le sol des maisons traditionnelles au Japon. Donc c'est de la paille tressée, c'est très fragile, c'est à la fois résistant mais fragile et puis onéreux à entretenir.
Et maintenant, entrons dans la maison traditionnelle japonaise, mais par l'évocation littéraire qu'en fait Tanizaki dans L'éloge de l'ombre. Lecture par Nathalie de Dijon.
Maintenant, allez jusqu'à la pièce la plus reculée, tout au fond d'un de ces vastes bâtiments. Les cloisons mobiles et les paravents dorés, placés dans une obscurité qu'aucune lumière extérieure ne pénètre jamais, captent l'extrême pointe de la clarté du lointain jardin dont je ne sais combien de salles les séparent. N'avez-vous jamais aperçu leurs reflets irréels comme un songe ? Ces reflets, pareils à une ligne d'horizon au crépuscule, diffuse dans la pénombre environnante une pâle lueur dorée, et je doute que nulle part ailleurs l'or puisse avoir une beauté plus poignante. »